Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Vous connaissez à bien connaître cette grande séance sur Séances Radio avec le concept habituel. On va se retrouver, on va parler cinéma pendant une heure avec nos blogueurs. On aura un débat, on va parler des tops et des flops. Et pour changer un peu, on parlait des tops et des flops des démarrages, parce que les démarrages du mois dernier, on les connaît par cœur. Maintenant, on sait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nos blogueurs sont là. Barbara Gauvert pour Barbara fait son cinéma. Benjamin Bonnet pour In the Mood for Men. Alexis Guillaumet pour CloneWeb et Filmosphère.com. Et puis, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir deux personnalités, deux artistes, Rachid Jaidani et Sadek, tout simplement parce que Rachid Jaidani est le réalisateur de Tour de France, un film qui va sortir avec Gérard Depardieu, avec Sadek, qui joue finalement... on va pas spoiler, allez.
Et ils sont j'attendais là. La fin, moi je me dis, ah génial, on va dire la fin.
Là c'était Rachid Jaidani, le réalisateur, qui parlait. Donc on va avoir le temps de parler de son film, de son beau film, de son film réussi, qui était d'ailleurs présenté à Cannes, à, je me trompe pas, la quinzaine des réalisateurs.
Spécial big up à Edouard Weintraub et la quinzaine des réalisateurs.
Voilà. Et d'ailleurs, Rengaine avait été présenté à la quinzaine de réalisateurs, si je me souviens bien.
Double big up, alors.
Alors, Nicolas, c'est le moment où jamais, Nicolas Balazard, de nous dire comment on peut intervenir et poser des questions à Sadek et à Rachid Jaidani.
Bonsoir à tous. Donc, pour intervenir dans l'émission, ça se passe sur Twitter avec le hashtag La Grande Séance sur notre compte Séance Radio ou sur Facebook Séance Radio.
Alors le sommaire, bah, ce sont les tops et les flops dans une seconde, évidemment les coups de cœur des blogueurs. On parlera au niveau des événements de cinéma du Festival du film d'Arras et du Festival du film de Sarlat, où je vais peut-être aller, parce qu'il faut quand même que je fasse mes courses et que je ramène mon foie gras. Je crois que le foie gras, c'est plus tellement la mode, hein. C'est pas très politiquement correct.
Ça reste toujours très sympa.
Ouais, mais je prendrai pas de foie gras, allez. Et le débat, ça va être... qu'est-ce que le cinéma pour la génération d'aujourd'hui? Et surtout, si on a envie de faire du cinéma aujourd'hui, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Et s'il y a quelqu'un qui peut intervenir dans ce débat, c'est bien Rachid. Et puis on terminera par un blind test sur les road movies de cinéma, puisque Tour de France en est un. Donc on aura 10 questions, on aura des
là,
extraits...
Là, la pression.
Je ne sais pas, ce sera des extraits musicaux, des extraits de dialogue, un peu les deux. Donc là, ça va chauffer. Dans un instant, le box-office.
La grande séance, le box-office.
Alors, le box-office, c'est très compliqué cette semaine, puisqu'il y a eu des films qui sont sortis hier mardi et aujourd'hui mercredi. Mais ce qu'on sait, c'est que Snowden d'Oliver Stone a plutôt bien démarré, puisqu'il est en Paris périphérie à 16 364 entrées, que Max et Léon a fait rire 14 548 personnes, toujours en Paris périphérie pour les premières séances. Ensuite, Mademoiselle de Park Chan-wook a pas mal marché, 6576, Paris périph, et puis Réparer les vivants, 6000 entrées. Côté continuation, Doctor Strange, on va faire les top US, est à 800 000 entrées en première semaine, ce qui est plutôt bien. Moi, Daniel Blake, de notre ami Ken Loach.
J'ai adoré.
C'est magnifique.
Je suis fan de...
Non,
j'ai fait du cinéma grâce à lui, d'une certaine manière.
Ah, mais ça fait très plaisir que vous disiez ça, parce que moi, j'étais à fond pour cette Palme d'Or, et j'ai suivi à Cannes, évidemment, tous les films en compétition. Ça fait 35 ans que je fais Cannes et que je suis tous les films en compétition. Je l'avais prédit après avoir vu les 22 films en compétition, et surtout un mois avant j'avais dit ce sera Ken Loach.
Ah,
c'est un film implacable, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est superbe, ça me fait plaisir
pas,
que ça vous ait
me lancez
plu.
Pas, parce que ah sinon bon, il va en avoir une autre.
Mais vous reviendrez, on parlera de Ken Loach, vous reviendrez. Donc moi, Daniel Beck, t'as plus de 200 000 entrées, ça c'est super sympa. Tamara marche plutôt pas mal, c'était un peu inattendu, parce que c'est une petite comédie qui est arrivée tout doucement, la Profil Bas, elle est à plus de 300 000 entrées. Mmh. Par contre, l'échec, le flop côté américain, c'est La Fille du Train. Donc voilà, avec Emily Blunt, hein, qui est à moins de 250 000 entrées. Alors je vais pas, voilà, c'est bien que, non, c'est bien, non, je vais pas dire c'est bien qu'un film français, une petite comédie française fasse mieux qu'un film américain, mais bon, moi je l'avais vu.
Elle aurait dû prendre le RER, peut-être.
Ouais, absolument. c'est exact. Brice de Nice, ou Bryce de Nice. Alors je sais pas si c'est un bon résultat ou un résultat moyen. Il est à 1 600 000 entrées, mais les vacances de la Toussaint sont finies. C'est quand même peut-être en dessous de leurs espérances, quand même. Hein. Parce que, voilà, je pense que c'est un film qui a coûté cher. En tout cas, il est en dessous du premier Bryce de Nice. Et puis, l'échec, malheureusement, c'est l'Odyssée. Mmh. Parce que en 3 semaines et quelques, il n'a pas atteint le million. Or, on sait que le film a coûté cher.
Millions, hein. Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est un échec. Hein. Donc, Benjamin, qu'est-ce que vous en pensez?
J'aimerais pas être son producteur, mais...
Ils n'auront pas de foie gras, eux. Hein.
Ouais. Pardon, Sadek?
Tu dis qu'ils n'auront pas de foie gras sur ce coup-ci.
Non, non, ça c'est
là,
clair.
Là, c'est 20 milieux sous les mers, c'est ça? Pas loin,
ouais,
au final.
Ça peut être ça. Bien, pour le quiz a déjà commencé, là. Dans un instant, ben, on se retrouve avec nos blogueurs.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Honneur aux dames, Barbara Govertz, vous allez nous parler d'une expo à la Cinémathèque française.
Exactement, la Cinémathèque française qui est un petit peu le temple des cinéphiles. Et en ce moment, une exposition qui s'appelle « De Méliès à la 3D, la machine cinéma » retrace l'évolution de la technique du cinéma. J'ai trouvé cette expo très intéressante. On évoque donc, alors c'est vraiment pour les fétichistes un vrai temple, puisque donc des tonnes de caméras sont exposées. Et comme je disais, voilà, l'expo retrace, donc on part bien sûr du cinématographe, des frères Lumière, pour ensuite passer à la caméra de Méliès, qui a été le premier à créer les trucs dans le cinéma. Donc c'est très intéressant. On voit que l'évolution se fait assez rapidement après le passage, bien sûr, au son, cinéma sonore, et puis la première caméra en couleur, qui a filmé, par exemple, Autant emporte le vent, donc déjà des fresques assez impressionnantes dès le début des années 30, pour ensuite passer par... les caméras plus légères utilisées par les membres de la nouvelle vague, comme Jean-Luc Godard, bien évidemment. Donc ça, vraiment une avancée très intéressante. Pour ensuite passer, voilà, à la caméra Panavision dans les années 80. Donc on voit vraiment une évolution assez rapide et toujours, voilà, une recherche sur la technicité. Donc cette Panavision qui a été utilisée dans les studios hollywoodiens. Et puis dès 2002, bien sûr, l'apparition du numérique, tout ça est retracé. Donc on en parlait un petit peu avant. Je sais qu'il y a des petites déceptions à ce niveau-là, puisque le numérique, voilà, n'est peut-être pas forcément.
Alexis Yomet.
Oui, puisque le nom de l'exposition, c'est De Méliès à la 3D, et la 3D est assez très succinctement résumé. Même le numérique, on n'a pas les caméras RED, on n'a pas les caméras de chez Sony, on a juste les caméras de chez Reflex. Donc c'est très rapidement passé sur le numérique, et même si on veut voir les rigs 3D que notamment avait pu utiliser Hitchcock pour...
Oui, parce que le cinéma en relief, ça existait bien avant la 3D. Hein.
Oui, et puis même dès le début du cinéma, il y avait déjà des premiers essais de caméras 3D à l'époque des Frères Lumière, bon, qui étaient juste des tests, qui n'étaient pas faits pour faire des films, et ça, c'est un petit peu absent de cette exposition.
Bon, faut y aller ou pas, Barbara?
Moi, je conseille, c'est pour ça que j'en parle, et justement, on termine donc sur la VR, la réalité virtuelle, donc on voit vraiment que le cinéma, la technique a encore
des beaux jours à venir.
Des beaux jours à venir, exactement. Et moi, j'ai trouvé, voilà, cette expo déjà visuellement magnifique, puisqu'on voit voilà, des objets qui sont vraiment des œuvres d'art. D'ailleurs, au début, j'avoue, en arrivant, je souriais un peu, puisque c'est indiqué, voilà, ne touchez pas les œuvres d'art. Et donc, on se dit, mais vraiment, ouais. Ce sont des œuvres. Et donc, c'est très intéressant.
Conseille
cette expo.
C'est sympa d'aller à la Cinémathèque française.
Il ne faut juste pas y aller le jour du vernissage, parce qu'il y a tellement de
monde. Benjamin Bonnet. Ouais.
Assez pénible, du coup. Ouais. Mais maintenant, c'est passé, donc allez-y.
Mais moi, j'aime assez l'idée de fétichisme, parce que je suis un fan de caméra. Et peut-être que les gens, quand on évoque ça à la radio, ils doivent se dire fétichiste. Mais moi, je vois des caméras, j'ai une boule au ventre, tellement je suis ému quand je vois l'objet.
Mais je peux comprendre, parce que voilà, justement, je trouve intéressant de s'intéresser en plus à la technique du cinéma. Voilà, voir un film, c'est justement s'intéresser, voilà, à cette technique, à toute cette... Surtout que dans machine.
Alexis Yomé.
Surtout que dans une vitrine, on a le cinématographe numéro 1 des Frères Lumière. On a la première caméra des Frères Lumière numéro 1.
À voir.
Alexis, puisque vous prenez la parole, je vous la donne. vous allez parler du Festival du film coréen. C'est une 11e édition. C'est marrant parce qu'en plus, il y a Mademoiselle qui est sortie hier, qui est un. Là, je vous le recommande, qui est un film magnifique.
Donc il y a Mademoiselle de Park Chan-wook qui vient juste de sortir. Et notamment aussi, on avait pu parler du dernier Train pour Busan qui a été présenté à Cannes avec The Strangers également. Donc tous ces films-là, c'est des films coréens. Moi, c'est un cinéma que j'adore. C'est un cinéma qui a été surtout connu à partir de 2003 avec Old Boy justement de Park Chan-wook.
Bien sûr, magnifique.
Qui a été qui a complètement transformé le cinéma de son pays et qui s'est tourné justement vers l'étranger. Donc c'est la 11e édition de ce festival. On y découvre plein de choses. On y découvre aussi bien les blockbusters que les films indépendants, que des documentaires, que des films de patrimoine. Donc ça couvre vraiment un large spectre. On a également les courts-métrages.
Ça se déroulait où en fait ? C'est fini aujourd'hui.
Voilà, hier. Ça s'est déroulé du 25 octobre à hier soir au Publicis, en haut des Champs-Élysées. Ça se reproduira l'année prochaine, ça, à coup sûr, puisque cette année, il y a eu une véritable affluence. On a eu des salles combles quasiment tous les soirs. Donc c'était même une surprise pour les organisateurs.
Ouais, les Français sont des cinéphiles quand même.
Voilà, et puis c'était aussi l'année France-Corée, donc ça a peut-être pu bénéficier également pour le festival. Alors on a pu voir des films comme Tunnel de Kim Song-un, où on est prisonnier à l'intérieur d'un tunnel avec quelqu'un dans une voiture au milieu d'un accident, et il doit survivre pendant 2 heures et sur plusieurs jours avec juste 2 bouteilles d'eau. Enfin, c'est des pitchs complètement fous. On avait Seoul Station, qui est le préquel animé de Dernier Train pour Busan. C'est une histoire qui se passe 1 heure avant, mais c'est en animation et qui se déroule donc avec les zombies dans les rues de Séoul. On avait le documentaire Old Days, qui est un documentaire donc 13 ans après sur le tournage de Old Boy. Donc on a tous ces participants qui en parlent. Enfin voilà, on avait plein de films. Et moi, mon coup de cœur, bon, c'était un film qui avait plein de défauts, mais qui s'appelle The Tiger de Park Hong-jin, et en fait qui nous lance dans la montagne enneigée. Voilà, avec.
Personne ne l'a vu.
les séances étaient complètes, et en fait on part avec donc l'acteur de Old Boy, donc Choi Min-sik, dans les montagnes enneigées à la chasse d'un tigre avec des soldats japonais, et avec un beau tigre numérique mais bien fait, et il y a pas mal de carnage dans la montagne.
Bon, c'est dommage que le festival soit terminé, mais on ira l'année prochaine. Benjamin Bonnet, In the Mood for Ben, court métrage, vous?
Je vais parler d'un festival qui n'a pas encore eu lieu, enfin d'une fête du court métrage.
C'est bien, on va y aller.
C'est une grande fête qui aura lieu du 15 au 18 décembre, donc c'est un petit peu en avance, mais mettez ces dates-là dans votre agenda. Oui, le court métrage, parce que je produis moi-même des courts métrages, donc je suis toujours très intéressé par mettre en avant justement les réalisateurs. Je sais pas si Rachid est passé par la case court métrage.
Je t'en parlerai tout à l'heure, mais j'en ai jamais fait, quoi.
Ok. C'est aussi intéressant puisque le débat va s'orienter à un moment donné aussi sur la jeune génération et le cinéma. Je trouve ça intéressant de mettre en avant ces films de court métrage, et donc il y a 3 jours entiers qui vont être dédiés à ça au Carreau du Temple à Paris, et aussi dans des salles de cinéma en France.
C'est-à-dire on va en voir beaucoup.
Alors l'agence du court métrage a sélectionné une cinquantaine de courts métrages qui sont ceux qui ont marqué cette année. Peut-être que vous avez entendu parler de Maman, de Maïmouna Doucouré, qui fait le tour du monde et qui représentera
qui a été récompensé à Sundance.
Exactement, à Toronto, et qui est dans la shortlist des Césars. Mais c'est une manifestation qui est gratuite surtout, donc qui est grand public, où on donc n'importe qui peut venir pendant ces 3 jours-là au Carreau du Temple. C'est organisé par l'association de Fête des Cours sous l'égide de l'Académie des Césars et de Julie Gayet d'ailleurs. Et donc j'organise partiellement cet événement, et venez tous, parce qu'on fait des animations aussi. Une journée spéciale pour les étudiants, pour les écoles de cinéma, de manière à leur montrer un peu qu'est-ce que c'est qu'un fond vert, comment est-ce qu'on manie aussi une caméra. Il y aura des ateliers assez ludiques, donc c'est l'occasion pour ceux de susciter des vocations, et puis pour les curieux de venir voir des films de court-métrage pendant ces 3 jours.
Super, mais il faut y aller, absolument, parce qu'on a souvent des très très bonnes surprises en voyant des courts-métrages. Ouais. Il y a souvent des petits bijoux. Dans un instant, on se retrouve avec nos invités.
La grande séance, l'interview.
Voilà, le 16 novembre prochain sort Tour de France de Rachid Djaidani, qui est notre invité. Le film avec Gérard Depardieu et Sadek raconte l'histoire d'un rappeur qui est joué par Sadek, qui s'appelle Farouk, Et qui doit quitter Paris parce que voilà, il y a une embrouille avec un autre rappeur et il doit se mettre au vert en fait. Et son producteur qui s'appelle Bilal lui dit écoute, mon père, il doit faire un tour de France là, il veut faire un peu tous les ports de France pour suivre un peintre, Joseph Vernet, et il a besoin d'un chauffeur et tu vas l'accompagner. Donc un peu contraint et forcé, Farouk y va. Et alors, le problème, c'est que le Gérard Depardieu, le père, Serge, est en froid avec son fils, le producteur Bilal, parce que Bilal s'est converti à l'islam et ça plaît pas du tout au père, Serge, Gérard Depardieu, qui est un peu réa, qui est un peu voilà, bas du front, et donc ils vont devoir voyager ensemble dans une camionnette. Et au début, évidemment, il y a un antagonisme entre les deux personnages, mais sans spoiler le film, voilà, ils vont se rapprocher, et ça va être une très très belle histoire, et très émouvante histoire d'amitié. J'ai bien résumé ? À peu près ?
Franchement,
il n'y a rien à dire. Il n'y a plus qu'à aller le voir.
J'espère qu'il va être produit ce film parce que c'est intéressant.
Alors.
Acteur. Ouais.
Ah, j'ai peut-être trouvé l'acteur.
Peut-être. Alors, bon, je ne sais pas s'il faut présenter Rachid Djaidani, mais voilà, c'est quelqu'un qui est parti de la banlieue, qui s'est débrouillé comme un grand tout seul. Et qui a fait ses tout premiers pas au cinéma en jouant la sécurité sur le film de Mathieu Kassovitz, La Haine. Et puis, je sais pas si c'est ça. C'est ça qui vous a, ça a été le tout premier contact avec Rachid?
En réalité, moi, j'étais boxeur. Ouais. Et quand j'étais boxeur.
Un bon boxeur.
C'est là où il faut faire attention. Mais j'étais bon boxeur et genre je dis ça normal parce que maintenant, avant j'ai des tablettes de chocolat, maintenant j'ai des mousses au chocolat. Donc je ne fais plus pleurer à personne, d'accord.
Vous êtes devenu une star, vous buvez du champagne.
Tu parles. Bon, jamais de la vie. Même pas, demande-leur au frange là. Non, je suis même pas au sélecto.
Un thé peut-être avec des bulles, mais.
Ouais. Même le champigny, j'ai peur. Enfin, c'est quoi le champomy, c'est
champomy,
ça
champomy,
ouais. Ouais,
champomy.
Ouais, tu vois, la preuve.
Ça peut rendre malade le champomy.
Voilà, en tout cas, voilà, j'ai même pas testé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, quand je faisais de la boxe, il y avait à l'époque deux garçons. Patrick Delisola et Jean-François Richer,
qui faisaient, et
avant même Ma Cité va craquer, ils préparaient leur film, leur premier long métrage qui était État des lieux.
Ouais, je me souviens très bien d'État des lieux.
État des lieux, à cette époque-là, moi je suis boxeur compétiteur au Bac 9 chez José Chacon, enfin ça c'est une petite dédicace en passant, et je les entraîne plus ou moins pour faire la fameuse séquence de boxe sur laquelle Patrick Delisola boxe, voilà. Et c'est la première fois où j'ai vraiment. Rencontrer le cinéma. Et comme c'était vraiment du cinéma très indé, c'était très très dur et c'était pas spécialement une expérience où tout à coup j'avais le fantasme du cinéma. Et ensuite, il y a eu effectivement la haine qui s'est fait non loin de chez moi, encore une fois liée à la boxe. Je faisais de la boxe à Chantoux-les-Vignes ensuite.
Là où était tournée la haine.
Et un jour, mon beau-frère, Sofiane Ben Sikaled, vient me voir pour me dire écoute, il y a un film qui va se faire dans le quartier. Ça serait bien que tu sois là pour faire le tampon et que ça se passe bien entre les mecs du quartier et les lascars qui vont venir tourner. À l'époque, Mathieu Kassovitz, Vincent, il n'y a pas d'histoire de bankable ou quoi. C'est-à-dire, je suis convaincu que c'est des mecs du quartier d'à côté qui viennent faire leur film. Et c'est là où je découvre le cinéma et je me dis, waouh, s'ils y arrivent eux, pourquoi pas nous? Et tout à coup, waouh, pourquoi pas faire la même chose qu'eux? Parce que j'ai toujours rêvé d'être dans le monde artistique.
Pourquoi ? De créer quelque chose ? De raconter quelque chose ?
Il y avait quelque chose de l'ordre de la liberté. Et puis en même temps, déjà, boxeur, c'est être artiste. Mais à l'époque, il faut remettre dans le contexte, là, on est en 94, il n'y a pas Internet, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'y a pas tout ce qui est un peu viral au niveau des supports qui sont Internet, etc., etc.
Vous êtes un peu vieux, alors ?
Ouais, j'ai la quarantaine, faut croire. Et tout de suite, je me lance dans l'idée de, ouais, pourquoi pas moi aussi? Et j'aime ça. J'aime vraiment ça, de voir Mathieu travailler, de voir Vincent être là. Il se trouve que Vincent, je le connaissais aussi parce qu'on faisait de la boxe
Vincent
ensemble.
Cassel.
Ouais, on faisait aussi de la boxe ensemble avec Saïd. Mais pour moi, c'était.
Saïd
pas,
Tagmaoui.
Voilà, pour moi, c'était pas des acteurs, c'est des mecs, voilà, on faisait de la boxe ensemble à Paris. Et il se trouve que, voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé sur le film et je me suis dit, waouh, je veux faire ça. Donc à partir de là, j'ai trafiqué des faux CV.
CV ?
Ouais.
Vous étiez quoi, tu ?
Ben, que j'avais fait l'école de la rue, de théâtre de la rue.
Ouais.
Et puis, je racontais, à l'époque, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas Internet, donc je marquais des faux titres de films. Des courts-métrages aussi. Et j'allais à la rencontre des directeurs de casting en leur disant « Ouais, voilà, j'ai fait ça. » Et comme tout le monde à l'époque, c'était « Oh, t'as fait La Haine ? » ?»« Oui, je suis acteur. » Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des Navarro parce qu'à l'époque... Ouais. Il n'y avait pas un robeux qui ne faisait pas Navarro pour acheter le sac d'une vieille.
Ouais.
Donc j'en ai fait pas mal en prime
time. Police district,
où là, ça s'était inversé parce que je faisais un jeune lieutenant de police.
Ah, quand même.
Ouais.
Il y avait promotion.
Il y avait promotion et tout. et puis de fil en aiguille, Peter Brook, etc.
Ouais, alors Peter Brook, c'est extraordinaire. Partir 4 ou 5 ans
dans
une troupe de théâtre.
Truc de dingue.
Et le théâtre, vous l'avez appris sur le tas, le théâtre ?
Ah, mais franchement, pour la faire avec élégance et courte, quoi. Moi, je rencontre Peter Brook et Marie-Hélène Estienne par l'intermédiaire d'une amie qui s'appelle Lilo Bord, qui est comédienne. Et un jour, on me demande d'aller à une matinale pour voir une pièce de théâtre. Et moi, je dis une matinale, vas-y, moi, je dors le matin. C'est pour te dire un peu la rencontre du théâtre, quoi. Et puis, en fin de compte, je me retrouve à aller voir une pièce. Et là, Marie-Hélène Estienne m'aborde et me dit, voilà, est-ce que je serais intéressé pour rencontrer Peter Brook? Je sais pas qui est Peter Brook. Ouais. Et de là, je me retrouve au Bouffe du Nord, je vous la fais courte encore, et on me propose effectivement de me retrouver dans Hamlet, et puis ensuite dans le costume, et puis ensuite dans une pièce qui s'appelait Tcherno Bokar, le sage de Banjagara, une pièce d'Amadou Mpateba, adaptée par Peter Brook, et puis...
Et puis voilà, alors la télé, le théâtre, le cinéma, l'écriture aussi.
Ouais.
Hein, Boomker, Mon Air, Viscéral. C'est artiste.
Ben, ouais. On a fait des choses de garçon.
Ouais.
Non, mais parfois ça fait trop mytho. C'est pour ça que même moi, quand vous. Parfois ça fait.
Vous vous reconnaissez plus dans votre CV là.
Non, mais
là, c'est un vrai CV là.
Il y a une vraie page Wikipédia
maintenant. Voilà, c'est vrai.
Mieux que faux.
Ouais, mais c'est pour ça que parfois ça fait. Quand les gens me connaissent pas et que je leur raconte ça, ça fait trop mytho quoi. Donc parfois. Je me tais pour pas dire je me tue quoi. Je dis non, vas-y.
Et puis il y a eu quand même le choc de Rengen, c'est-à-dire que ça c'est le truc qui vous a fait un peu exploser au niveau des médias.
Ça a été assez dingue. 9 ans de caméra ninja comme je dirais quoi. Pendant 9 ans j'ai erré dans Paris avec des acteurs incroyables qui n'étaient pas pour la plupart acteurs.
Ouais.
De ma femme à Slimane Dazi en passant par d'autres qui n'avaient jamais joué, seulement Stéphane Soumongo qu'on avait pu voir dans Le ciel, les oiseaux et ta mère entre autres. Et pendant 9 ans, on a erré sur l'asphalte parisienne au bout de 500 heures d'image et 2 ans de montage,
ouais,
sans argent, parce que là, on peut dire vraiment sans aucun euro.
Vous avez fait une sorte de Roméo et Juliette.
C'est ça,
un
quoi.
Petit peu.
Ouais, je ne l'ai jamais vu, Roméo et Juliette.
Ouais.
D'ailleurs, pour la faire encore une fois, pour vous raconter encore, pour tirer un fil, la fois où je rencontre Peter Brook me dit, est-ce que, voilà, Shakespeare, tu connais? Je lui dis non. Il me dit, bon, Roméo et Juliette, tu ne connais pas? Je fais non. J'ai failli la voir la dernière fois le film Roméo et Juliette avec DiCaprio.
Tu vois,
et il m'a dit, alors, est-ce que vous l'avez vu? J'ai fait, non, je ne l'ai pas vu parce qu'il est passé à la télé, je ne l'ai pas vu. Et il a dit, bon, ça veut dire que nous pourrions commencer sur des bonnes bases. Voilà, donc Roméo et Juliette. Quoi.
Et donc, Rengen, le film qui vous a fait connaître et qui a eu des superbes critiques, ça a été super encourageant.
Je ne me le dois pas, je pense que... Il y a eu la détection d'un homme, comme je disais tout à l'heure, Edouard Vantrop, et de la quinzaine des réalisateurs, qui tout à coup a mis la main sur un DVD et se sont intéressés à cette démarche et à ce parcours singulier qui est à la fois la rencontre, encore une fois, de Stéphane Soumongo, de Sabrina Hamida, qui vivent une histoire d'amour un peu compliquée, puisque Sabrina est amoureuse d'un jeune black, acteur, ce qui n'est pas évident, black et acteur déjà, c'est compliqué. Made in France, on va dire. Et de là, il se trouve que cette fille a 40 frères.
Ouais.
Donc ça.
C'est chaud.
Ça a été plus que chaud, quoi. Chaud les marrons.
On le trouve en DVD, Rengen ?
Il se trouve en DVD, effectivement.
Ah bah, il faut le dire. Voilà, c'est bien. Alors, Tour de France aujourd'hui. Tour de France, d'où est venue l'idée et comment vous avez choisi notre ami qui est très discret dans son coin, Sadek, qui est un rappeur que tout le monde connaît maintenant.
Ouais.
Comment vous l'avez choisi ? Comment vous avez eu l'idée de mettre ce couple ? L'immense. Celui, il est costaud aussi, ça.
Ah, mais ça boxe dans les catégories très très chaudes. Tu vois.
Gérard Depardieu et Sadek. Comment est venue cette idée
alors,
de Tour de France?
L'idée, il faut savoir que c'est une idée qui me trotte en tête depuis longtemps, parce que déjà à l'époque, en 99, j'avais des potes qui faisaient une sorte de road trip à travers la France pour enregistrer des rappeurs sur des instrus que eux avaient mis en place et qu'ils avaient créés. Et à l'époque, en 99, quand j'écris mon premier roman, les mecs m'abordent et ils me demandent d'écrire un texte. On est bien avant le slam. Hein. Je ne suis pas rappeur, je ne suis pas slameur et j'écris le texte. Mais au-delà de ça, je trouve leur histoire incroyable. Ces mecs deviennent de Lyon. Je prends ma caméra parce qu'il faut savoir que j'ai toujours une caméra en main. Et je commence à les suivre dans leur road trip. Et puis de là, naît l'histoire de Tour de France. Je commence à écrire intérieurement dans mes rêves. Je vais dire une idée, tiens, un jour je devrais faire un truc comme ça. Il y a la rencontre à Cannes avec Anne-Dominique Toussaint qui tout à coup me dit, est-ce que tu as des idées? Est-ce qu'après on gagne quelque chose? Productrice du film, incroyable. Qui me dit, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, je lui raconte cette idée, le pitch, on va dire. Et elle me dit, attends, mais banco, moi, j'ai envie d'en être. Il faut savoir que la rencontre avec Sadek, pour rebondir, voilà, elle se fait... c'est vraiment une pépite qu'il a fallu chercher avec beaucoup de persévérance, de force, d'endurance et comment dirais-je, de...
Constance.
De mieux que ça, quoi. Ça veut dire que c'était un rêve, quoi. Mmh. C'était un rêve qui devait se réaliser, quoi. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes issus parfois aussi de la scène hip-hopesque, on va dire. Malgré tout, le talent et l'envie qu'ils avaient les uns et les autres de me convaincre et de décrocher ce rôle, malheureusement,
ça marchait pas.
Sadek est arrivé. Et ça a fait une année.
Sadek est arrivé.
Non, mais c'est bouleversant. on se rend pas compte, mais ce qu'il fait le jour des essais, c'est énorme. Et ce qu'il fait pendant le film, c'est bouleversant. Et ce qu'il m'apporte au quotidien, c'est magique. On a un mot qu'il faut faire attention, mais c'est un soldat, quoi. Et il est monté au front, et le mec qu'il avait à ses côtés, c'était Tonton. Ouais. Ah. Et Tonton, en face de Tonton,
alors,
il faut être présent, quoi.
Sadek, comment vous avez fait en face de Tonton? D'abord, vous n'aviez jamais joué à la comédie?
Jamais.
Jamais?
Non, jamais. J'ai jamais eu même d'envie ou quoi de faire ça. C'est vraiment une opportunité qui m'est venue par un ami qu'on a en commun, Rachid, qui s'occupe de la musique du film, qui s'appelle Clément Dumoulin, et qui m'appelle et qui me dit, je travaille sur la bande-son d'un film qui s'appelle Tour de France, c'est pas encore tourné et tout, est-ce que t'aurais des idées, est-ce que tu veux venir participer au projet? Je dis, ouais, avec plaisir et tout. Et je rencontre Rachid, Anne-Dominique, etc. Et il me propose de faire un essai, moi j'ai saisi l'opportunité. Et deux semaines après, ils m'appellent, ils me disent, bon bah, c'est
mais
toi.
Mais quel essai, hein. Magnifique.
Et on va y aller, quoi. Et le vrai casting qui s'est fait le premier jour du tournage où je regarde Gérard pendant une minute dans les yeux et on se parle pas. Il revenait de Saint-Amour, donc il était assez fatigué. Et il me regarde, il arrête de parler avec tout le monde. Il y avait Nounours aussi qui est tout le temps avec lui. Il y avait Rachid et moi.
Ouais,
on s'est regardé peut-être pendant une minute dans les yeux sans parler. Et après, il a dit, c'est bon, je l'aime bien.
C'était qui tout double?
Non, mais c'est franchement.
C'est un vrai casting.
Mais franchement, même quand Sadek dit ça. C'est pas pour enjoliver les choses. Tonton, c'est quelqu'un qui est magnétique. Mmh. C'est un magnétiseur, ça veut dire que...
Il vous
scanne.
Et c'est
bouleversant. Il faut savoir que pour les gens qui découvriront le film...
Tonton, c'est Gérard Depardieu, je le rappelle, pour ceux qui prennent l'émission.
Pour les gens qui découvriront le film, la rencontre qui se fait pendant le film entre Sadek et Tonton, Farouk et Serge, c'est vraiment ce qui se passe... dans la réalité. Ça veut dire que 5 minutes avant, ils se sont dit bonjour. Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de répétition. Il ouvre la porte, c'est toi, vas-y, entre. Et le film commence comme ça.
Mais ça se ressent complètement. Enfin, une des grandes forces du film, c'est l'alchimie, vraiment, qui existe entre ces deux personnages principaux, clairement. Ce que vous dites, vraiment, ça crève l'écran.
Ça a été, franchement, ce que fait. Parce que Tonton, bon, voilà, c'est le Mohamed Ali du 7e art. Mais en face de lui, il y a du Richard Léonard, il y a du Marvin Hagler.
Qu'est-ce qui s'est passé en vous, Sadek? Parce que bon, vous n'êtes pas acteur, mais apparemment vous êtes un acteur né parce que vous êtes extrêmement naturel devant la caméra. Dites-nous un peu, vous avez quand même eu un petit peu le trac face à Gérard Depardieu, face au plateau de cinéma, face aux caméras.
Je sais pas si la comparaison elle est bonne, mais moi c'est la première métaphore qui me vient en tête. Pour moi, je vous dis la vérité, je monte au braco. Ça veut dire que là, j'ai une grosse opportunité de sortir toute ma famille de la cité. Il n'y a pas de temps pour la réflexion, il n'y a pas de temps pour est-ce que ça va être bien, il n'y a pas de temps pour tout ça. Ouais. Il faut faire et il faut faire tout de suite et il faut vite, 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 vite qu'on sorte d'ici parce qu'on est dans l'urgence absolue.
Ouais.
Donc, toutes ces questions-là, je les laisse aux autres. Moi, je ne réfléchis pas. Je fais ce que Rachid me demande.
Ça voulait dire quoi, l'urgence absolue?
L'urgence absolue, c'est que là, c'est une opportunité de changer ta vie, mon grand. Mmh. C'est-à-dire que. Mmh. On n'a pas le temps pour les caprices, on n'a pas le temps pour réfléchir, on n'a pas le temps pour rien, parce que dans 2 semaines, ça sera passé, dans 1 mois, il y aura des regrets, et moi, je ne veux pas les regrets, je veux les remords.
C'est, oui, mais encore fallait-il être juste face à la caméra.
Il a été. Hein.
Ça, après, c'est
instinctif.
Je sais pas. Franchement, je fais ce qu'il me demande. Je fais ce qu'on me demande.
Il faut savoir. Il y a quelque chose de. Il est là, mais je le dis dans le off. Autant je le dis devant lui, j'ai aucun souci parce qu'après, moi, je reprends ma route et voilà. Mais il faut dire les choses. Ce qui est incroyable avec Sadek, c'est qu'il a aussi une capacité qui est très rare. Il a une mémorise. Il comprend l'émotion de son personnage, mais il mémorise à une vitesse incroyable le texte. Il faut savoir qu'il n'y a aucune improvisation dans le film, ce qui fait que tout est écrit. Tout est écrit. Il y a aucune improvisation. Parfois, ça surprend beaucoup les gens et tout. Ah mais parce que Rangaine, c'était complètement improvisé, d'où 500 heures d'image. Là, on est dans la quintessence et Sadek a cette capacité là de reproduire, et d'autant plus que le shadowboxing face à Tonton, il faut renvoyer dans le rythme,
dans le tempo
quoi. Il y a une musicalité quoi.
Et comment vous l'avez trouvé alors, Gérard Depardieu, en dehors de ça, comme personnalité, comme homme sur un plateau, comment vous, voilà.
Honnêtement, déjà c'est une tornade dès qu'il arrive, mais c'est une tornade de rire, de bonheur. C'est un personnage en couleur, et puis moi je l'apprécie vraiment beaucoup parce que on a passé des moments très forts ensemble forcément, et en plus il me rappelle un ami de mon père qui est décédé. Il y a quelques années de ça, qui s'appelait Tonton Richard, et il me fait penser un peu ce genre de vieux français un peu franchouillards qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui disent ce qu'ils pensent tout haut et qui disent « Oh putain, je viens de dire une connerie ». On s'en fout, et après il va enchaîner avec un P, un RO, et on continue, on s'amuse. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une très très grande classe et qui a énormément de facettes en fait. Même si tous les violons sont accordés, il a beaucoup 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 de couleurs. Sur son tableau.
Ouais, c'est bouleversant.
Rachid Jaidani, comment on dirige Depardieu ? Parce que vous êtes quand même un jeune réalisateur et vous avez un très très grand comédien, un monstre sacré là, sous vos ordres, enfin sous vos ordres, sous votre direction.
Moi j'ai tendance à dire que Tonton, on ne le dirige pas, il nous érige. Déjà. Ensuite, si je reviens encore sur la boxe, j'ai le sentiment que c'est un homme qui nous fait monter avec lui sur le ring, qui nous met les gants. Et une fois qu'on est prêt à frapper, il lui dit bon, c'est bon. Maintenant, tu peux commencer le combat. T'as plus besoin de moi. C'est-à-dire que c'est dans le regard, c'est dans le toucher, c'est dans le respect. Et en même temps, comme le dit très bien Sadek, il y a une intelligence chez lui qui est bouleversante. C'est-à-dire qu'il connaît à la fois son personnage, il connaît également le personnage du personnage qu'il a en face de lui. Il a beaucoup d'amour parce qu'autour du film, il y a, en dehors de Louis Grimbert qui est superbe, il n'y a aucun acteur professionnel en dehors de lui. C'est ce que j'ai voulu aussi. Et donc, les personnes venaient toujours tous avec un caractère et un univers en dehors du 7e art, qui fait qu'il a toujours été intrigué par les gens que je lui ai rapportés ou amenés à rencontrer. C'était tout le temps nouveau, tout le temps frais, quoi. C'était magique, franchement. Et puis en même temps, je le dis beaucoup et je le dis fort, avoir Tonton sur un tournage, c'est se protéger des aliens, parce que c'est le plus beau des alliés. Vraiment, quoi. C'est-à-dire que il fait silence pour qu'on écoute ta parole, et en même temps, il te fait des leçons de cinéma et des anecdotes incroyables. Il a des anecdotes, parfois, t'as pas envie de mastiquer pour rien perdre. C'est magique.
Vous êtes d'accord, Sadek ?
Ah oui, mais moi...
Vous avez des beaux souvenirs.
Ah ouais.
Moi, j'ai essayé, entre guillemets, de suivre le rythme, parce qu'il faut savoir que Gérard Depardieu, il est capable de parler avec vous comme ça et de pleurer là, tout de suite, en deux secondes. Et on rigole, et d'un coup, il faut faire une scène d'embrouille, donc ça veut dire qu'il faut suivre son rythme. Et donc, moi, j'ai vraiment été très impressionné par ça. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a une anecdote où, à la fin, on se dit au revoir, c'est un peu les adieux et tout. Et dans le scénario,
c'est la fin du film, et il meurt aussi.
Non, c'est pas la fin du film. Mais dans le scénario, il y a écrit avec des sanglots, etc.
Ouais.
Indication de jeu qu'il faut pleurer. Et donc moi je pleure, lui il me tient la main et il savait pas si je pleurais pour de vrai ou pas. Et je le touche comme ça, je lui dis t'inquiète. Et on laisse la scène se faire, ils disent couper, etc. Et tous les techniciens ils viennent avec des mouchoirs, ça va et tout. Je dis on rigole.
Ouais. Non, c'est vrai. Et moi je vais voir Sadek pour raconter un peu le truc. Je vais à Sadek, je fais mais tu sais. Là, t'as pas besoin de pleurer trop et tout. Il me fait, mais c'est écrit. Je fais, ouais, d'accord. C'était vers la fin du tournage, il avait tout capté, quoi. D'accord, quoi.
On reste ensemble, Rachid Jaidani et Sadek. On va se retrouver dans un instant pour le débat. Mais pour le moment, on vous écoute, Sadek.
Super.
toute l'année pour avoir ce que personne ne va nous donner. On vendait de la peau du shit, t'étais même pas né. Rebeurons dans des jazz panettes. À 4 ou 5 sur la même canette. Vécu dans la précarité, pas la même planète. J'aime ma vie de banlieusard, même si c'est la merde. Tous les jours, les keufs nous emmènent. Sa mère, un jour, je partirai loin d'ici et je te dirai allez, allez. J'ai explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller, en aller, en aller. J'ai explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller, en aller, en aller. J'aurais dit l'équipe là, il faut changer de vie. Et ils sont tous conneries. En aller, en aller, en aller. Quand tu ne suivras pas, moi je vais me barrer.
Super, c'était Andalé, c'était Sadek qui chantait. Sadek est dans notre studio ici dans Séance Radio aux côtés de Rachid Jaidani. Dans un instant, on se retrouve pour la séquence événements. On peut quand même rappeler qu'on peut intervenir dans cette émission.
Toujours
Nicolas
pour réagir
Balazard.
Et toujours pour poser vos questions à nos invités. Ça se passe sur Twitter, hashtag La Grande Séance, sur notre compte Séance Radio ou sur Facebook.
Dans un instant, la séquence événements.
Les événements cinéma sont dans La Grande Séance.
Alors, il y a deux festivals intéressants. Le Festival du film d'Arras, du 4 au 16 novembre, donc c'est très bientôt, c'est la 17e édition. Il y aura des avant-premières, des focus sur le cinéma d'Europe surtout, des découvertes. Deux rétrospectives, La guerre d'Espagne et les films d'évasion, Le jeune public, une programmation spéciale, des ciné-concerts, et puis il y aura la compétition européenne, 9 longs-métrages inédits, comme dans toute bonne compétition, et c'est Jean-Pierre Améris, un excellent cinéaste, qui présidera le jury, chargé de décerner l'Atlas d'or. Et puis Stéphane Brisé sera l'invité d'honneur de cette 17e édition, et donc tout le public d'Arras pourra le voir, et il viendra présenter son nouveau long métrage Une vie, dont on parle beaucoup d'après Une vie de Maupassant. Vous le connaissez bien, Stéphane Brisé. Il y avait eu La loi du marché, dont on avait beaucoup parlé au Festival de Cannes, et donc il viendra présenter son film, qui est très différent de La loi du marché, puisque là on est dans le 19e siècle, avec l'histoire d'une jeune femme jouée par Judith Chemla, entre autres, avec d'excellents acteurs, et c'était un très beau film. Moi je l'ai vu, c'est un très beau film.
Mais nous, on sera également à Arras.
Ah,
le film est présenté là-bas.
Ah, super.
Parce que l'ouverture du film, ouais, parce que l'ouverture du film quand Sadek qui incarne donc le personnage de Farouk se rend chez Tonton. Tonton habite Arras.
Absolument.
Et donc la gare qu'on découvre dans le film, c'est la gare d'Arras au début du film.
Ah.
Et on entend donc la femme quand il est dans le TGV qui dit Terminus Arras, blablabla.
Et donc vous allez présenter le film là-bas.
Voilà. Super. Donc ça serait une occasion de retrouver les habitants d'Arras qui nous ont accueillis avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. C'était assez dingue. Mais ils sont incroyables, les gens du Nord.
Ouais.
D'autres l'ont chanté avant nous, mais ils sont incroyables, quoi.
Et puis un autre festival plutôt dans le sud, cette fois en Dordogne, c'est le festival du film de Sarlat. Là c'est du 8 au 12 novembre, c'est la 25e édition. Alors le festival est intéressant parce que c'est un festival de cinéma, mais c'est une manifestation qui se fait se rencontrer tous les lycéens en section cinéma de France et qui viennent voir les réalisateurs qui sont là, les films qui sont là. Et moi ça fait très longtemps que je vais à Sarlat, et à chaque fois que je discute avec les lycéens, ils sont quand même au taquet, ils connaissent vachement bien le cinéma, ils adorent venir aux séances, et puis surtout, ils apprennent un peu le cinéma. Il y a des leçons de cinéma avec les réalisateurs dans les rues, on leur donne des caméras, ils font des petits films, donc c'est toujours passionnant. Et il y aura évidemment une compétition avec 11 longs métrages, et en général toutes les équipes de films viennent à Sarlat, comédiens, réalisateurs, et là il y aura José Garcia, Michel Boujna, Nicole Duvauchel, entre autres, parce qu'il y a vraiment un très beau plateau à Sarlat. Donc voilà, n'oubliez pas, Arras Film Festival du 4 au 16 novembre, avec tous ces films et la présentation, entre autres, de Tour de France de Rachid Jaidani, et puis le Festival du film de Sarlat. Dans un instant, le débat.
La grande séance, le débat.
Alors la question est simple et on peut tous y participer, là on est nombreux. C'est quoi le cinéma pour la génération d'aujourd'hui? Et surtout, est-ce que c'est facile pour ceux qui ont envie de faire du cinéma d'en faire? Moi, j'ai envie de vous poser la question, Benjamin, puisque vous produisez des petits courts-métrages et que vous connaissez bien le jeune cinéma. Est-ce que c'est facile aujourd'hui pour quelqu'un qui a envie de faire du cinéma, d'en faire? Parce qu'on a l'impression que tout le monde peut en faire. Hein, voilà, et on prend une caméra, on en fait. Et c'est pas si facile que ça.
Ouais, bah effectivement, alors le Rachid est là pour nous en parler. Il est pas passé par la case court-métrage, mais ce qui est pas du tout un problème. Moi je trouve que c'est bien pour moi d'accompagner des jeunes réalisateurs avec des premiers courts-métrages et passer après ensemble sur les longs-métrages, d'autant plus qu'aujourd'hui le CNC par exemple propose des aides spécifiquement dédiées aux binômes réalisateurs-producteurs qui font ensemble un passage du court au long. Donc non, c'est pas simple aujourd'hui. Je pense que réussir à maîtriser à la fois un outil de type caméra et gérer un budget et un plateau et des acteurs et ne pas attendre par exemple 9 ans pour réussir à faire son premier film, ça nécessite d'être accompagné effectivement par un producteur et là Rachid a trouvé avec Anne-Dominique je pense le binôme efficace pour ce Tour de France. Donc la jeune génération, les cinéastes d'aujourd'hui, même s'ils sortent pas d'école, je pense qu'il faut qu'ils se confrontent à fabriquer des films, à connaître un peu l'alpha et l'oméga de comment est-ce qu'on arrive à réussir à finaliser un film, du scénario à la post-production et puis à l'exploitation du film après. Mais tout est possible et Sadek le dit, à partir du moment où on a un rêve et qu'on a envie d'y aller, ben on se pose pas de questions et on se dit pas tiens je vais pas y arriver.
C'est vrai que moi j'ai pas fait de court métrage parce que j'ai beaucoup d'amis tu vois qui sont passés par là et puis tout à coup se retrouvent avec des courts métrages entre les bras, sans diffuseur, sans distributeur, sans moyen de arrondir les fins de mois. Donc je me suis dit quitte à vivre une aventure autant la voir grande, et donc je suis parti dans le long direct. Après ce qui est super super dur, et franchement je peux être le Wikipédia du cinéma indé quoi.
Ouais.
Franchement j'ai une expérience je veux pas être maladroit mais franchement je l'ai éprouvé. Oui. Quoi
le long parcours.
Ah ouais, non,
partir
mais...
de rien, de rien au cinéma et arriver à aujourd'hui faire Tour de France qui va sortir dans les salles.
Par exemple, Rengaine, c'est de la DV. Alors, il y en a qui vont dire c'est quoi de la DV? Le film, il est tourné en DV, Rengaine. Hein.
C'est quoi la DV?
C'est les cassettes numériques à l'ancienne que tu mettais directement dans le caméscope. Alors que maintenant, t'as des cartes SD. Voilà, tu vois. Mais donc, t'as pas le droit de plus d'une heure d'image. Il faut changer la cassette. Voilà, et puis il faut faire les backups. Enfin, franchement, je suis le Wikipédia. Je vous lance pas là-dessus, mais je suis le Wikipédia. et ensuite, ce qui est super éprouvant, c'est comment, quand tu fais du cinéma indé, on va dire, comment tu rentres dans le
circuit traditionnel.
Dans le circuit. Et c'est là où tu te rends compte que le circuit, c'est super tendu, quoi.
C'est-à-dire? Ça, c'est super intéressant.
Parce qu'ils acceptent pas que tu aies démarré une œuvre sans leur assentiment, sans leur bénédiction et sans être adoubé. Et donc, arrivé à un moment, tu dois redoubler d'efforts pour faire en sorte que ton film existe et soit diffusé. Et c'est super dur. Vraiment, c'est une sorte de vol, d'une certaine manière. Moi, j'ai réussi pour rester dans le truc, à trouver mon envol parce que tout à coup, il y a Anne-Dominique qui est venue, qui a permis à légaliser les films des Tournelles. Il y a Haut-et-Court qui est venu et qui a fait en sorte que le film il puisse avoir ce qu'on appelle l'agrément. Mais il y a des choses que je peux pas raconter, mais en contrepartie, j'ai dû céder beaucoup de choses, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que dans Rengaine, par exemple, pour que les gens le sachent, c'est un film qui est parti du mode guérilla jusqu'à rentrer dans les rails, et tous les acteurs ont été payés, tous les techniciens ont été payés, le film il a été légalisé
après coup
qui fait que j'ai dû signer des papiers auprès du CNC, entre autres, pour qu'il n'y ait pas de jurisprudence, quoi.
Mais c'est Rengaine qui a ouvert la porte.
Franchement, Rengaine, il a défoncé des portes, mais il y avait encore des portes derrière, quoi.
Ouais.
Il y a toujours des portes derrière.
Sadek.
Ouais. Ouais.
Il y a toujours des portes derrière. Moi, je pense que pour tout ce qui concerne les vocations, que ce soit le cinéma, la musique, ou même devenir garagiste, n'importe quoi, je pense que n'importe qui veut rentrer dans un parcours de vie doit bien se poser et voir si son envie, elle est plus forte que sa personne. Parce que au bout d'un moment, il faut pas croire qu'on va arriver dans le cinéma, dans la musique, ou même dans le sport, ou dans n'importe quoi dans la vie qui demande ce qu'on appelle un métier, et croire qu'on va avoir une facilité et qu'on va nous mâcher les aliments pour nous. Bien sûr qu'on va se manger des portes, on va se manger des cocards, et le truc, c'est quoi? C'est de savoir toujours se relever, et toujours persévérer, et toujours continuer. C'est ça, je pense, qui est important chez les artistes, c'est de jamais écouter la 201e personne qui nous dit non. Aller jusqu'à la 215e qui va peut-être dire oui.
Mais vous pensez, Rachid Djaïdani, que c'est plus difficile encore aujourd'hui qu'autrefois?
De toute façon, le 7e art, c'est le Graal, quoi. Donc effectivement, on est nombreux à vouloir exister dans cet art, et ce qui est un art majeur, quoi. C'est incroyable, tu fais du cinéma, il y a la photo, la littérature, il y a tout dedans, la mise en scène, les places sont chères. Mais que tu viennes de Paris 6e arrondissement, ou de banlieue, ou de province, que tu sois un homme ou une femme, toutes catégories confondues, trouver sa place et planter sa graine dans ce ring du 7e art, c'est à la fois une vocation, et en même temps, comme je le dis, moi, c'est aussi de comment j'ai pu, moi, démarcher la première fois, c'est aussi un acte suicidaire. Mais en même temps, moi, les 9 ans de Rengaine, par exemple, je les assume complètement, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma. Moi, je suis super heureux des 9 ans, parce que ça a fait mon background, ça a fait mon expérience, qui fait que aujourd'hui, je pourrais dire à un jeune, commence par du court-métrage. Pourquoi commence par du court-métrage aussi? Je vous dirai pourquoi, parce que le jour où tu seras sur un long, comme moi je l'ai été, je savais pas ce que c'était un accessoiriste. Je ne savais pas la valeur d'un premier assistant. Je ne savais pas ce que c'était un chef opérateur, parce que j'étais le couteau suisse dans Rengaine. Je faisais tout, et tout avec passion, conviction, et en me sacrifiant pour l'œuvre. Mais quand tu es avec une équipe, c'est d'autres choses. C'est bon, à 14h c'est fini, on reprend à la pause, on reprend ci, on reprend. Et tu dis, waouh, mais moi, l'accessoiriste, j'avais un accessoiriste, je vais me taire, mais je le dis, il avait deux bras gauches, il avait deux mains gauches. Mais je comprenais pas comment c'est possible. Parce que sur IMDB, c'est pas sur IMDB qu'on fait des rencontres pour le cinéma. Il faut les rencontrer au quotidien.
Il faut les éprouver.
Et le court-métrage, ça participe à ça.
Puis moi, j'ai une autre question, hein, Chidja Adani, c'est comment garder sa liberté? Parce qu'il y a tout un système.
Ah, ça, c'est...
On voit tous, il y a 615 films qui sortent chaque année. On en voit, enfin moi j'en vois pour ma part, je le dis souvent, mais un peu la moitié. Et c'est vrai que je privilégie parfois les films français, les films européens. Et je laisse tomber les films de Marvel, pas parce que je les aime pas, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de moi en tant que critique. Mais je vois 30 bons films sur les 300 que je vois. Donc même si on dit que le cinéma marche bien, il y a beaucoup de déchets quand même. Il y a beaucoup de films vides et creux. Donc ma question, elle est directe. Si les Américains viennent vous voir, ils sont peut-être déjà venus vous voir, pour vous faire un énième La mort dans la peau, qu'est-ce que vous dites? Et vous offre une fortune.
Je suis un Ken Loach chien, quoi. Donc je suis un mec, je sais, mon karma, c'est de rester en chien, quoi. C'est en mode Ken Loach, quoi, en mode... tu sais, je vais te dire, on a chacun nos... On en parle beaucoup avec Sadek de ces choses-là. Mm-hmm. Moi, je sais, tu vois, je suis comme ça. Je sais que mon karma à moi, c'est d'être encore avec le cinéma du cambouis, quoi. C'est le cinéma du social, parce que je suis ancré là-dedans. Je crache pas sur le cinéma dont vous parlez, mais je n'ai pas cette capacité de le faire. Tu vois, moi, j'aime la poésie dans mon œuvre, quoi. J'aime ça. Par exemple, vous parlez de liberté. Pour Rengaine, c'est 2 ans de montage. Arrivé à un moment, Tour de France, on me dit le montage est fini. Je prends les disques durs et je vais rebricoler de bon côté. Personne ne va me retenir. pour donner naissance à mon œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Nelly Quétier, qui est ma monteuse extraordinaire, elle m'a ramené chez elle aussi. On a continué à travailler la matière. Ce qui est difficile dans le cinéma La Loyale, c'est qu'il y a des deadlines, quoi. Et c'est les deadlines parfois qui tuent les œuvres. Mais c'est comme ça.
Oui, Alexis.
Justement, parce que autant les réalisateurs sont traversés tous les jours, même quand ils dorment et tout ça, entre les jours de tournage, ils pensent à leur film, ils mangent, ils dorment, ils pensent qu'à leur film. Que les producteurs, eux, ils pensent surtout déjà à faire un film rentable et pas forcément un beau film. Ouais. Ils essaient déjà de revenir dans leur fond. Et après, en 2015, il y a eu 300 films français ou coproduits par la France qui sont sortis, donc réduit à l'échelle d'une semaine, ça fait entre 5 et 6 films français qui sortent par semaine. Et en fait, le plus difficile, c'est pas forcément des fois de faire le premier film, c'est souvent d'en faire un second. Parce qu'il y a énormément de personnes qui arrivent à faire un premier film, mais très peu qui arrivent à passer déjà la seconde étape, un second. Et souvent après, dès qu'on a fait un second, les troisièmes, quatrièmes arrivent souvent après.
Et ce que je vais te dire, c'est un peu... Voilà, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, je reviens sur ma base, sur mes fondations, je fais Rengaine. Rengaine, 9 ans. Ensuite, je veux dire merci aux frangins. C'est mon côté, voilà, Ken Loach, quoi, d'accord. Je me dis, voilà, il y a tous les frangins qui m'ont donné un coup de main, les sisters et tout. Comment je fais pour les remercier? J'ai un ami qui est peintre qui s'appelle Yacine Meknash. Je lui dis, écoute, pour dire merci à tout le monde, je vais faire un film sur toi. Et j'ai pris 3 ans de ma vie après Rengaine pour faire un documentaire sur cet homme. C'est un documentaire qui s'appelle Ancré, un très beau documentaire qui a été au cinéma du réel, qui a fait quelques compétitions et tout. Mais encore une fois, malgré Rengaine, malgré la beauté du film, pas de distributeur, pas de diffuseur, zéro, double zéro. Parce qu'on te dit encore une fois, pourquoi t'as démarré sans nous? Donc, quand j'arrive sur Tour de France, je suis la corde de cou, ma parole d'honneur, je suis la corde de cou, quoi. C'est la vie ou la mort, c'est-à-dire que moi, j'ai une famille. C'est ce que je disais à Sadek, moi j'ai une famille sur les épaules. Et comme nous tous ici autour de cette table. Et moi, c'est pas le cinéma. Je fais du cinéma comme je faisais de la maçonnerie. Mais arrivé un moment, je veux pas qu'on m'empêche de ramener mon salaire dans ma bouche pour nourrir ma famille. Et c'est pour ça que personne m'interdira de faire des films. Et là, j'ai fait Ancré. Peut-être que, voilà, c'est un long métrage. Bah, quand tu te retrouves devant... Oui, mais pourquoi...
Je ferai toujours des films. C'est pas mal comme fin de débat. On se retrouve dans un instant. Et là, attention, ça va être chaud. On passe au quiz.
Ah.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Donc, personne ne copie là, parce que la dernière fois, il y avait un blogueur à côté de moi. Ou quelqu'un. alors, je vous rappelle que le thème, c'est les road movies. Donc, voici le numéro 1.
Une addition. Excusez-moi, il va en fallait. 82.
Redman.
Tu dois combien?
Alexis a gagné.
Je dirais plutôt Benjamin.
Benjamin.
Non, mais ils sont trop loin. Attends, je vais mettre le casque.
82. Il a dit la version française en plus.
Il faut mettre le casque. Ah oui, ce qui est compliqué, c'est la version française.
C'est vrai que moi, je l'ai vu en VO.
La voix de Dustin Hoffman en français.
Je l'ai vu en VO, c'est vrai, excusez-moi.
Attention, le 2.
Dis donc, Cheryl, je viens de remarquer que Dwayne ne parlait plus.
Oh, oui, il a fait vœu de silence.
Mais moi j'aurais trouvé.
Il veut entrer à la Air Force Academy pour devenir pilote d'essai, alors il a fait vœu de silence jusqu'à ce qu'il atteigne son but.
Tu plaisantes?
L'oncle qui a fait vœu de silence.
C'est pas Little Miss Sunshine?
Bravo.
Ah oui.
Ah, j'ai tout.
Little Miss Sunshine.
Et j'ai repensé à ce film récemment parce que je trouvais extraordinaire l'idée du gamin qui est daltonien, quoi. Et qui a les fins courts hors de la
camionnette
et qui crie et il dit ouais bah ouais il pourra pas.
Il veut dire qu'il a deux lignes.
Hein, non mais ce film est mince.
Attention, là c'est un de mes films préférés de l'époque.
Et je sais aussi que dans la vie, le plus important ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais de se sentir fort.
Oh là là, la VF est terrible.
Et de se mettre à l'épreuve une fois.
Ça fait rien, c'est pour la difficulté du jeu.
C'est pas Casino de Sadek? Non, c'est pas ton album ça.
Attendez, écoutez.
Affronter seul la nature aveugle et sourde.
Into
the Wild.
Into the Wild.
Oh,
bravo,
non,
Barbara.
Bah ouais, non.
Bravo, bien joué. Pas mal. Attention, un film de 2008, le 4. Bravo. Qui a trouvé? Alexis Yomé. Bravo, bien joué.
C'était quoi?
Au Brother. Les frères Cohen. Super. Le numéro 5, c'est un classique de 1991, donc il y a 25 ans, c'est ça.
Tout a l'air très différent.
Thelma et Louise.
Qui a dit Thelma et Louise?
Tu dois sentir ça aussi.
C'est fort, hein.
Non, mais les frères, non, mais il faut qu'ils arrêtent, quoi.
Ridley Scott.
Non, mais sans déconner, quoi.
Ridley Scott, voilà. Alors là, je vous dis pas la date, ça vous aiderait trop. C'est parti, le numéro 6.
Easy Rider.
Easy Rider. Et comment t'as fait?
Une bonne originale culte.
Ouais, d'accord.
Non, mais
d'accord.
Juste ce morceau-là, c'est de Easy Rider.
Easy Rider, hein, qui est fait par l'acteur.
Par Dennis Hopper.
Dennis Hopper.
Dennis Hopper, ouais. En 1969.
C'est marrant, j'ai
lu. T'étais pas né, toi?
Non.
T'étais pas né.
J'ai lu l'affiche parce que j'ai un livre. Comment j'apprends le cinéma, quoi. Ouais. Enfin, comment. Ouais. J'ai une collection à la maison. C'est les 100 œuvres du cinéma indépendant. Ouais. Et il est dedans.
Ah ouais,
mais dedans, malheureusement, dans le livre, il n'y a pas la bande son, quoi.
C'était le film phare du nouvel Hollywood dans les années 70.
Totalement.
Attention, le numéro 7.
Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka?
Non, on ne peut rien vous servir.
C'est difficile.
Rien du tout. On n'a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle.
Alors ouvre grand tes oreilles, ma jolie. Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter.
C'est un Tarantino?
Ça pourrait, non, c'est Priscilla, folle du désert.
Ah ouais.
De Stéphane Elliott en 1994. Attention, un classique, le numéro 8.
Richard.
Ouais, mais.
C'est pas le film Richard, non?
Non.
C'est un road movie, Richard.
Là, c'est un road movie, c'est un grand classique. En 1980. John Landis.
Les Blues Brothers.
Les Blues Brothers.
Ah ouais.
Oh non. Même.
Ce garçon est dangereux.
Alors là, je suis désolé, c'est ma génération. Moi, même sans entendre la voix, j'aurais reconnu forcément. On y va pour le numéro 9.
Écoute-moi bien. Il y a 2000 dollars à la clé. Oh, mais je m'en fous du pognon, maquin, ma peau.
C'est français.
$100,000
aussi. Tu vas demander à venir, non? Je t'ai acheté que j'avais les poils.
Ça aurait pu être ça, mais c'est la chose. C'est plus vieux. Écoutez bien.
Bah maintenant, faut passer et on passera.
Ah, mais c'est de la connerie.
La connerie, c'est de s'être embarqué dans cette course d'andouille.
Et c'est traversé de Paris.
N'oublie pas.
Non, ça aurait pu.
Allez, mets-toi derrière et fais gaffe.
Ange-Georges Clouzot.
L'enfer.
Le salaire de la peur. 1953. Quel film, hein.
Ah, mais laisse tomber.
Oh là.
En fait, c'est tous des films que j'ai vus. Voilà, moi, je connais pas beaucoup. Ah, ils étaient tous là.
Et le dernier, qui est un classique aussi, mais là, c'est pas français.
Oh, Texas.
Bravo, Paris, Texas. 1 sur 10, bravo, pas mal.
Non, mais c'était moi, voilà. J'ai adoré ce film, t'aurais trouvé. Il y aurait eu de la boxe là.
J'aurais pas fait long feu.
Ok, tu dis quoi.
Dans un instant, on se retrouve pour la conclusion de cette émission.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Alors avant de conclure, on va vous dire qu'on était très heureux, Sadek et Rachid, de vous avoir.
Pareil.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Tour de France? Vous avez le trac avant la sortie du 16 novembre, c'est ça? À vous, on va vous découvrir au cinéma, Sadek. Hein.
Non, j'ai pas vraiment de trac, mais j'ai très envie que les gens puissent aller le voir, parce que je pense que c'est un film qui va amener beaucoup, et puis on a eu de très belles réactions dans les salles, que ce soit même, on a eu la chance de pouvoir aller à Sarajevo, à Hambourg... même dans des villes en France comme Montpellier ou dans le Nord, etc. Et on a toujours eu de magnifiques réactions, et j'ai très envie de le voir. Et puis c'est une fierté quand même, pour maman déjà.
C'est déjà bien. Et vous, Rachid, Jaïdani, vous allez avoir un peu le trac quand même. Là, vous êtes dans le circuit.
Ouais, mais voilà, c'est comme un boxeur, quoi. C'est-à-dire que le boxeur, c'est dans la salle qu'il fait le combat, quoi. Après,
on verra,
ça veut dire que tu peux très bien mettre un uppercut et gagner sur KO, ou bien parfois il peut y avoir un accident et te ratamer. Mais ce qui est beau, c'est que le combat, il a été fait avec amour et avec foi.
Merci. Nicolas, une dernière fois, comment peut-on intervenir dans l'émission, ou même après d'ailleurs?
Même après, pour toute l'actualité de la radio et du cinéma en général, c'est sur Twitter Séance Radio, ou sur Facebook Séance Radio pareil.
Et nous, cette séance radio se termine, cette belle séance, cette belle grande séance du cinéma, et puis on se retrouve le mois prochain. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents.
Merci à vous.
Merci Rachid, merci Sadek.
Au revoir.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.